Pourquoi l'évocation du Lévitique provoque toujours des rires dans presque n'importe quel groupe d'études bibliques aujourd'hui?
Oh, ben c'est presque automatique, hein.
Mais oui, c'est ça. Il suffit d'imaginer la scène, tu vois. Un groupe vient de passer des mois à décortiquer, je sais pas moi, la philosophie de l'évangile de Jean. L'esprit de chacun est en ébullition, on se demande quel sera le prochain grand sujet.
Et là, il y a toujours quelqu'un pour proposer sérieusement le Lévitique.
Et c'est la crise de rire assurée. La réaction automatique, c'est vraiment l'hilarité générale. C'est fou quand on y pense, ce texte était autrefois perçu comme une question de vie ou de mort. Et aujourd'hui, c'est devenu au mieux une curiosité un peu archaïque, au pire, bah, une blague absolue.
Ouais, c'est une réaction hyper révélatrice en fait. Et pour être tout à fait honnête, ça illustre parfaitement le fossé immense, mais vraiment immense, qui s'est creusé entre notre vision moderne du monde et celle des anciens.
Bah écoute, bon, décortiquons tout ça. C'est exactement ce fossé qu'on va essayer de combler aujourd'hui. Notre plongée au cœur des sources s'appuie sur les notes d'une conférence vraiment fascinante du docteur David de Silva.
Oui, la session 7, c'est ça?
C'était ça?
Sur la pureté et la pollution?
C'est ça, le monde culturel du Nouveau Testament. Et notre mission pour cette exploration, c'est de déconstruire ce préjugé tenace. On va voir que ces textes, qui sont souvent perçus comme absurdes ou inaccessibles, bah, ils reflètent en réalité une vision du monde super structurée.
Une vision qu'on partage d'ailleurs en grande partie aujourd'hui, même si on s'en rend pas compte.
Grave. Mais avant d'en arriver là, je dois quand même admettre une chose. Je comprends tout à fait ce qui rit. Le monde occidental a tellement démystifié le sacré. On a tendance à rejeter ces codes antiques en les qualifiant juste de religion de surface ou genre de simple légalisme, quoi. Comment on en est arrivé à ce rejet, à ton avis?
Ce qui est fascinant ici, c'est que cette difficulté à comprendre le Lévitique, bah, elle découle d'une de nos plus grandes évolutions théologiques. L'idée d'un accès direct à Dieu sans avoir besoin d'un intermédiaire professionnel ou de rituels hyper complexes.
Ce qui est perçu comme une immense libération, en fait.
Exactement. Mais le truc, c'est qu'en démystifiant cet accès, en rendant le divin si familier, on a complètement perdu le sens viscéral du danger. Pour comprendre l'ancien système et vraiment l'œuvre du Christ plus tard, il faut faire l'effort mental de retrouver cette perception antique.
La perception du sacré, tu veux dire?
Ouais. Le sacré, avec un grand S, c'est pas seulement bon ou réconfortant. C'est incroyablement puissant, c'est écrasant et potentiellement mortel si on s'en approche sans préparation.
Ouf, c'est un concept super difficile à saisir pour des esprits modernes, tu sais. On pense être totalement affranchi de ce genre de peur. On a l'impression de ne plus avoir aucun rite de purification.
Alors que c'est pas du tout le cas.
Mais justement, la source du docteur De Silva propose une réflexion qui m'a vraiment fait m'arrêter. Il affirme qu'on possède nos propres codes de pureté et qu'ils sont extrêmement stricts, même s'ils sont totalement invisibles pour nous.
Et ils sont invisibles précisément parce qu'ils nous semblent naturels. Faut bien comprendre que l'impureté, dans son essence, c'est pas la saleté au sens où nous on l'entend.
C'est pas une question de bactéries, quoi.
Non, c'est simplement de la matière qui se trouve hors de sa place.
Ah ouais, l'analogie de la Terre. La source utilise une comparaison brillante pour illustrer ça. Prenons le cas d'une tasse remplie de terreau de jardin. Si on la jette au milieu d'un parterre de fleurs, dehors, personne ne scie.
Bah non, c'est sa place naturelle. La terre dans un jardin, ça n'a aucune connotation négative, c'est juste fonctionnel.
Mais imaginons que cette même tasse de terreau soit renversée sur l'allée en ciment juste devant la maison. Là, c'est plus tout à fait normal.
C'est pas une urgence vitale, mais c'est sûr que quelqu'un va sortir un balai dans la journée pour remettre cette terre sur la pelouse. L'ordre doit être restauré, en fait.
Voilà. Et maintenant, on passe au test ultime. Cette même tasse de terre, tu la verses en plein milieu d'un magnifique tapis blanc dans le salon.
Oh là là, panique! La réaction sera immédiate et hyper intense. Bon, à part peut-être dans un appart d'étudiants qui vivent dans un chaos total, personne va tolérer ça une seule seconde.
C'est clair. L'aspirateur va être sorti frérétiquement.
Et pourtant, d'un point de vue purement matériel, la Terre n'est pas devenue subitement malveillante, toxique ou radioactive.
Elle a juste franchi une frontière invisible, en fait. Elle est hors de sa place, pour reprendre l'expression. Et c'est fascinant de réaliser que cette même logique, bah, elle s'applique à nos tabous alimentaires aujourd'hui.
Absolument. Consommer du bœuf, du poulet ou du porc, c'est la norme dans nos sociétés occidentales. Mais l'idée même qu'on puisse nous servir un curé de chien, par exemple, ça provoque un dégoût viscéral, une véritable révulsion chez la plupart des gens.
Ce qui est intéressant à analyser, c'est la racine de ce dégoût. Pour la grande majorité, c'est pas d'abord une réflexion éthique sur la souffrance animale, tu vois.
Non, c'est un tabou purement culturel. Le chien, il appartient à la catégorie animal de compagnie, pas à la catégorie nourriture.
C'est ça. Quand une chose passe d'une catégorie à une autre sans autorisation, pouf, elle devient impure à nos yeux. Ça explique tellement de nos comportements quotidiens, c'est fou.
Comme quoi, par exemple?
Ben, pense à la fameuse règle des 5 secondes. Si un morceau de pain tombe sur le plan de travail de la cuisine, on le ramasse, on le mange, fin de l'histoire.
Ouais.
Mais s'il tombe sur le sol du salon, la plupart des gens vont le jeter ou aller le rincer abondamment. C'est pas moralement mal de manger sur le sol, mais la frontière entre la surface de préparation et la surface où l'on marche a été violée.
C'est une excellente illustration. Et le concept de contagion suit exactement la même logique. Imagine quelqu'un de bien enrhumé qui s'essuie le nez de manière très visible avec la morve et tout, puis qui tend la main pour te saluer.
Oh l'horreur! La réaction de recul est instinctive.
Et la recherche désespérée de gel hydroalcoolique qui s'ensuit, c'est ni plus ni moins l'équivalent moderne d'un rite d'ablution et de purification rituelle.
Ouais, mais attends, là je dois faire l'avocat du diable. Attends, c'est pas juste une question d'hygiène médicale pour nous, hein? Je veux dire, contrairement aux anciens Israélites qui pensaient en termes de malédiction, nous on a la science, on a la théorie des germes.
Tu penses aux microbes?
Oui, voilà. Notre réaction face à la main enrhumée ou au pain tombé par terre, elle est purement scientifique et rationnelle, non?
Ben, ça, c'est l'histoire très rassurante que la modernité aime se raconter, tu vois. Mais en réalité, nos codes dépassent largement la simple biologie. Ils relèvent carrément de l'ingénierie sociale, tout comme pour les juifs de la période du Second Temple.
De l'ingénierie sociale, ouais. C'est-à-dire, comment ça?
Ben, pense à l'exemple d'une personne sans abri dans la rue, que De Silva mentionne dans la source. Pourquoi sa présence crée souvent un tel malaise chez les passants? C'est pas qu'une question d'hygiène.
C'est quoi alors?
C'est parce que, dans la structure très rigide de notre société urbaine, cette personne est hors de sa place. Elle brouille les frontières entre l'espace privé et l'espace public, en dormant ou en mangeant carrément sur le trottoir.
Ah ouais, je vois, elle a pas de case assignée dans la grille sociale, du coup.
Exactement, et c'est ça qui crée un sentiment d'anomalie, de perturbation de l'ordre.
C'est hyper troublant d'y penser sous cet angle. Et ça s'applique aussi à des trucs beaucoup moins dramatiques. Par exemple, recevoir un appel professionnel hyper tendu à la maison, genre un dimanche soir pendant un repas de famille.
Oui, ou à l'inverse, devoir gérer une crise conjugale en larmes au beau milieu d'un bureau paysager devant tous tes collègues de travail.
Ah, l'angoisse. Ce sont des violations flagrantes de l'espace-temps, en fait. C'est pas un problème médical, c'est vraiment un problème structurel.
Voilà, une limite invisible sépare la sphère intime de la sphère publique, ou le temps de repos du temps de travail. Quand cette limite est franchie, on ressent une impureté, un vrai malaise profond. L'ordre a été rompu.
Donc, si je résume bien, l'impureté, c'est avant tout une affaire d'éléments qui perturbent l'ordre, en se retrouvant au mauvais endroit.
Tout à fait.
Et si on applique ce prisme à l'échelle cosmique de l'ancien Israël, là, tout s'éclaire. Parce que pour eux, la pire perturbation, c'était pas bactériologique. Le danger suprême, c'était la collision incontrôlée avec la divinité.
C'est fondamental de comprendre ça. Et c'est pour cette raison précise qu'il faut rejeter avec la plus grande fermeté toute explication médicale du Lévitique.
Ouais, parce qu'on en entend souvent des trucs comme ça.
Oh oui, j'entends encore trop souvent des tentatives de rationalisation moderne du genre... si les Israélites mangeaient pas de porc, c'est parce qu'à cette époque, dans le désert, la viande se conservait mal et donnait la trichinose.
Ah mais oui, c'est l'explication super classique qu'on entend partout, quoi.
Sauf qu'elle passe complètement à côté de la véritable vision du monde de ces textes. Un juif de l'Antiquité, notamment sous la domination gréco-romaine, il était prêt à mourir sous la torture plutôt que d'avaler un morceau de porc.
Et c'était pas par crainte d'attraper des vers intestinaux, c'est sûr.
Non, chami prep. Le martyr n'est pas motivé par la gastro-entérite, quoi. Refuser le porc, c'était préserver l'ordre voulu par Dieu dans l'univers face au chaos. C'était littéralement une question d'intégrité cosmique.
Et justement, pour maintenir cette intégrité, le chapitre 10 du Lévitique met en place un système de catégories ultra précis. En parcourant les notes, j'ai vu qu'il y a deux grandes paires à retenir.
Oui, la fameuse grille.
C'est ça. D'un côté, il y a le commun et le saint, et de l'autre, le pur et l'impur. Est-ce qu'on peut décortiquer ça un peu? Comment toutes ces forces interagissent?
Alors, imaginons une grille. Le commun, c'est le neutre. C'est l'état ordinaire des choses, des jours, des objets. C'est accessible à tous. Le saint, en revanche, c'est ce qui appartient exclusivement à Dieu.
C'est chargé d'énergie, quoi.
C'est chargé d'une énergie divine complètement écrasante, oui. Et sur le trax, t'as le pur et l'impur. Le pur, c'est l'état normal et propre d'une personne ou d'un objet.
Et l'impur, j'imagine que c'est quand il y a un problème.
C'est un état de pollution, souvent lié à la mort ou aux fluides corporels. Ce qui signifie qu'une limite de l'ordre naturel a été franchie. Ce qu'il faut retenir, c'est que la vie de tous les jours, pour la grande majorité des Israélites laïcs, se déroulait dans la case pur et commun.
C'est d'ailleurs cette nécessité d'ordre parfait qui explique certaines lois qui nous paraissent totalement absurdes aujourd'hui. Genre l'interdiction de manger du homard.
Ah, l'homard.
Bah oui, pour nous, c'est juste incompréhensible. C'est un mets super raffiné. Mais dans leur logique, le homard, c'est une aberration totale. Dieu a créé les animaux marins pour nager avec des nageoires et des écailles.
C'est ça. Et le homard, ben, il vit dans l'eau, mais il marche sur le fond comme un insecte ou un animal terrestre.
Il mélange les catégories de la création, en fait. Il est donc hors de sa place.
Ce mélange des genres est totalement intolérable dans un système qui cherche à refléter la perfection divine. L'ordre doit être absolu pour que le saint puisse résider au milieu du camp d'Israël.
C'est là que ça devient vraiment intéressant. La source utilise une comparaison qui m'a vraiment pris de court avec la série Star Trek et le vaisseau spatial Enterprise.
Ah oui, c'est vrai?
Sur le coup, franchement, j'ai eu du mal à voir le rapport entre le désert du Sinaï et la science-fiction, je t'avoue.
Et pourtant, c'est une analogie brillante pour comprendre cette fameuse notion de confinement. Pense au noyau de distorsion du vaisseau.
La salle des machines, ouais.
Voilà. L'équipage doit gérer l'interaction entre la matière et l'antimatière. C'est une source d'énergie phénoménale qui leur permet de voyager à travers les étoiles. Mais si le champ de confinement magnétique cède et que les deux entrent en contact direct...
C'est l'explosion.
C'est l'annihilation instantanée totale du vaisseau, ouais.
Ah ouais. Donc le contact entre l'impur et le saint, c'est littéralement la brèche dans le réacteur nucléaire, quoi.
Si on relie ça à la situation dans son ensemble, c'est exactement ça. La sainteté du Dieu est la source de toute vie, de toute bénédiction. Mais cette même sainteté, par sa nature de pureté insoutenable, elle peut absolument pas tolérer l'impureté, elle la désintègre.
Ça me fait penser au récit du prophète Ésaïe.
Au chapitre 6, oui.
C'est ça, au chapitre 6. Quand il se retrouve soudainement propulsé dans la salle du trône divin, sa réaction, c'est pas du tout un émerveillement béat ou une paix profonde.
C'est la terreur absolue.
Il s'écrit un truc du genre « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures ». Il pense sérieusement qu'il va être vaporisé sur place par la radiation de la sainteté divine.
Israël se trouvait donc face à un paradoxe terrifiant, tu vois. D'un côté, ils avaient désespérément besoin de la présence de Dieu au milieu d'eux pour être protégés, pour être bénis.
Mais de l'autre, cette même présence était une menace létale s'ils s'en approchaient en état de pollution.
Le Lévitique n'est donc pas une vulgaire liste de punitions.
Pas du tout.
C'est littéralement la technologie spirituelle, on va dire, nécessaire pour contenir la pollution et survivre à cette cohabitation. C'est exactement ça. Et pour éviter cette fameuse explosion cosmique entre matière et antimatière, bah, la société entière a dû être minutieusement cartographiée.
Chaque individu, espace et moment devait être à sa place.
Voilà. On peut vraiment parler de véritable carte de pureté.
J'aimerais bien qu'on examine ces cartes d'ailleurs parce que la stratification est juste vertigineuse. Prenons la carte des personnes par exemple. Tout en bas de l'échelle, ou plutôt totalement en dehors de la carte, on trouve les gentils, c'est-à-dire les non-juifs.
Ils sont impurs par défaut dans ce système.
Ensuite, on entre dans le cercle des Israélites, qui se séparent du reste du monde par la circoncision. Mais c'est pas fini. Parmi eux, la tribu de Lévi a un statut supérieur.
Et ça continue de monter ?
Oui, au sein de cette tribu, les prêtres sont encore un cran au-dessus. Et au sommet absolu, tout seul, le grand prêtre.
Et cette hiérarchie humaine, elle trouve son reflet exact dans la géographie, dans la carte des espaces. Le temple de Jérusalem, en fait, c'était la matérialisation de ces cercles concentriques de santé. Plus on s'approchait du centre, plus la concentration d'énergie divine augmentait.
Et ces cercles, ils étaient délimités physiquement. Je veux dire, c'était pas juste symbolique dans la tête des gens.
Ah non, c'était extrêmement concret. L'enceinte extérieure, la cour des gentils, elle était ouverte à toutes les nations. Mais pour avancer plus loin, il y avait un mur de séparation physique avec des inscriptions qui interdisaient l'accès aux non-juifs sous peine de mort.
Ah ouais, carrément.
Ensuite venait la cour des femmes israélites, puis celle des hommes, et encore plus à l'intérieur, le lieu saint. C'est un bâtiment où seuls les prêtres en service pouvaient entrer.
De tout ça, le saint des saints. Le réacteur nucléaire, pour reprendre l'image, le point d'intersection ultra précis entre le ciel et la terre, où seul le grand prêtre pouvait pénétrer.
Et une seule fois par an, le jour des expiations en plus.
Qu'est-ce qui se passait si quelqu'un ignorait ses limites, que ce soit spatial ou temporel, s'il y avait ce qu'on appelle un empiétement ?
Les conséquences de l'empiétement étaient toujours fatales. La littérature antique regorge vraiment de ces récits d'avertissement. Le docteur de Silva cite l'histoire hyper célèbre du deuxième livre des Maccabées, tu sais, avec le général païen Héliodore.
Ah oui, celui qui essaie de rentrer de force dans le temple pour le piller.
C'est ça. Il tente d'entrer de force dans le trésor. Et il rencontre pas une milice humaine classique. Le récit décrit carrément des apparitions d'anges à cheval qui le battent presque à mort pour l'expulser du périmètre sacré.
Waouh !
La notion même d'accumulation de pollution est si forte que les textes disent que la terre d'Israël possède un seuil de tolérance. Si l'impureté s'accumule trop, la terre elle-même vomit ses habitants, exactement comme elle l'aurait fait pour les Cananiens avant eux.
C'est puissant comme image. Et cette obsession des limites, elle s'appliquait aussi à la carte du temps. Il y a les 6 jours de travail ordinaire et le sabbat, qui est littéralement du temps saint, du temps mis à part.
Et là encore, il n'y a pas de place pour le mélange.
Non. Travailler le sabbat, c'était mélanger du temps commun avec du temps saint. C'était vu comme une rupture du confinement qui était carrément passible de mort. Et sans parler des 3 grands festivals, la Pâque, la Pentecôte et les Tabernacles, qui étaient comme des pics de sainteté dans le calendrier.
Tout était organisé pour structurer l'espace, le temps et la société de la manière la plus sécuritaire possible.
Mais en voyant cette ségrégation extrême, avec les gentils tenus à l'écart, les prêtres qui concentrent tout l'accès au sacré, il y a une question inévitable qui se pose, tu vois.
Je t'écoute.
Donc, ce système servait-il de bouclier de sécurité spirituelle face au divin, ou était-il une forme d'ingénierie sociale géante pour tenir les étrangers à l'écart et verrouiller le pouvoir en ancien?
C'est la grande question. Et l'analyse historique montre que les deux fonctions sont indiscernables. Les lois de pureté agissaient incontestablement comme une barrière sociale et ethnique.
T'as un exemple pratique en tête ?
Prenons les lois alimentaires. L'interdiction absolue de consommer le sang parce qu'il appartient à Dieu, ou les règles ultra strictes sur la façon dont les viandes sacrifiées devaient être partagées selon les rangs. Concrètement, qu'est-ce que ça signifiait au quotidien ?
Ça signifie qu'il est juste impossible de partager un repas.
Exactement. Et partager un repas dans le monde antique comme aujourd'hui, c'est la base absolue de la socialisation, des alliances et des mariages.
Donc ça bloquait tout.
Totalement. Dans la diaspora, quand des Juifs vivaient dans des villes païennes à travers l'Empire romain, ils ne pouvaient pas simplement aller acheter de la viande au marché du coin.
Parce qu'elle aurait pu être sacrifiée à une idole ou mal abattue, c'est ça ?
C'est ça. Du coup, ils devaient créer leur propre réseau d'abattage, leur propre marché. Cette barrière rituelle les empêchait physiquement de se fondre dans la masse. Et c'est ce mécanisme précis qui a permis au peuple juif de survivre à l'assimilation et de préserver son identité face aux cultures païennes.
Et ça nous amène vraiment à la fracture la plus profonde avec notre propre mode de pensée moderne. Aujourd'hui, on compartimente tout.
Ouais, on sait partout.
La morale, c'est être honnête, ne pas voler, aimer son prochain. Le rituel, c'est la liturgie, la façon dont on s'habille pour aller au culte ou ce qu'on mange. Ce sont 2 mondes séparés. Mais pour l'ancien Israël, il n'y avait aucune distinction, c'est bien ça?
Aucune. Le rituel et l'éthique formaient un seul et unique tissu. Le chapitre 19 du Lévitique en est d'ailleurs l'illustration parfaite et c'est très déconcertant à lire aujourd'hui avec nos lunettes modernes.
C'est là qu'on trouve la fameuse juxtaposition troublante, non?
Oui, oui. On y trouve ce verset fondamental. Tu aimeras ton prochain comme toi-même.
Pour nous, c'est le sommet absolu de la morale évidente.
Sauf que dans le texte, ce précepte est immédiatement suivi, mais vraiment sans aucune transition, par des commandements comme « Tu ne semeras pas ton champ avec 2 sortes de semences » ou « Tu n'porteras pas de vêtements faits de 2 sortes de tissus ».
C'est super difficile à avaler pour nous. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie? Comment escroquer son voisin dans une fraude commerciale et, porter un t-shirt en coton mélangé à du polyester? Ça peut être considéré avec la même logique de pollution.
Cela soulève une question importante sur leur vision du monde. Parce que, pour un juif du 1er siècle, dans les 2 cas, c'est une déchirure dans l'ordre cosmique voulu par Dieu. Ça exigeait exactement la même offre de culpabilité.
Waouh.
Et c'est là qu'intervient la chercheuse Marie Douglas. Dans son ouvrage majeur, Purity and Danger, elle met en lumière un concept fascinant, c'est la carte du corps humain.
C'est-à-dire, le corps physique de l'individu représentait autre chose ?
Oui, pour les anciens, le corps physique individuel y fonctionnait comme un microcosme, un symbole parfait du corps social d'Israël dans son ensemble.
Donc, protéger les frontières du corps ?
C'était symboliquement protéger les frontières de la nation d'Israël.
Oh, je vois. Donc ça explique toutes ces règles hyper compliquées sur les fluides corporels ou les maladies.
Exactement. Les fluides qui s'échappent du corps, que ce soit les menstruations ou les émissions nocturnes, ça représente une rupture de la frontière corporelle. Pareil pour les maladies de peau de l'époque, comme la lèpre qui détruisait l'intégrité de la surface du corps.
C'est comme une invasion en fait.
Cette frontière qui cède à l'échelle d'un individu, elle était perçue avec la même angoisse qu'une infiltration d'ennemis étrangers franchissant les frontières du pays. La menace était de même nature.
L'anthropologie derrière tout ça est juste incroyable. Et la manière dont ces textes ont été compilés a continué d'évoluer, n'est-ce pas, Elvin? La source parle de la période du Second Temple, où on a commencé à intellectualiser un peu toutes ces pratiques.
Oui, face au monde philosophique gréco-romain, les penseurs juifs ont cherché à expliquer ces commandements. La lettre d'Aristée, par exemple, explique que si on ne mange pas de vautour, c'est pas parce que l'oiseau est mauvais en soi.
C'est symbolique.
Voilà, c'est pour enseigner aux humains à ne pas s'attaquer aux plus faibles. C'est une métaphore.
Et d'autres textes allaient encore plus loin, comme le 4e livre des Maccabées, qui dit que refuser le porc, c'est carrément un exercice de musculation mentale pour développer la maîtrise de soi.
C'est très stoïcien comme approche. Mais parallèlement, on voit aussi un durcissement de ces règles. Le mouvement des pharisiens, par exemple, a développé une préoccupation majeure pour ce qu'on appelle la pollution secondaire.
La pollution secondaire ? C'est-à-dire qu'on touchait même pas l'objet impur lui-même.
C'est ça. Le simple fait de toucher un objet qui avait été en contact avec l'impur suffisait à vous polluer. Cette crainte constante les a poussés à s'isoler toujours davantage, à construire des barrières de plus en plus hautes.
Ça remet tellement de choses en perspective. On a souvent accusé ces systèmes antiques d'être d'une grande hypocrisie, d'être une religion de surface.
Alors que l'obéissance à ces règles n'avait rien d'une hypocrisie de surface, c'était le reflet d'une conviction profonde. Obéir à l'injonction divine, soyez saints, car je suis saint. Le rituel est le véhicule de la moralité pour eux.
En arrivant au terme de cette exploration, il apparaît vraiment évident que le Lévitique, c'est pas une liste de corvées aléatoires. C'est un code de survie, un code d'identité et une tentative de cartographier la beauté et le danger de la présence divine.
Nos moquettes de salon bien propres et nos tabous alimentaires modernes, ce sont juste les échos lointains de ce besoin humain de mettre chaque chose à sa place.
C'est ça. Et ça nous amène à une réflexion finale super provocatrice qui découle de nos sources. Dans l'ancien Israël, si on devenait impur, il y avait un processus précis.
Oui, un rituel pour être purifié et réintégré dans la communauté.
Exactement. Sauf exception extrême, il y avait un chemin de retour. Aujourd'hui, notre société moderne exclut et pollue socialement ceux qui enfreignent nos nouvelles normes, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans l'espace public.
C'est la cancel culture, en fait.
Voilà. Mais contrairement au Lévitique, on n'a mis en place aucun rituel de purification pour permettre à ces personnes de retrouver leur place parmi les purs. Est-ce qu'on n'aurait pas perdu la mécanique du pardon que les anciens avaient codifiée?
C'est une question vertigineuse qui invite vraiment chacun à réfléchir sur les bases de sa propre vision de l'ordre du monde.
Sur ce, on espère que cette plongée vous aura donné matière à réflexion à ceux qui nous écoutent. À très vite pour une prochaine exploration.